Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jim Sault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis avec un coureur d'endurance qui est vraiment fort, qui a eu une année de feu 2022. Il est incroyable. Il y a plusieurs choses que je pourrais mentionner, mais je vais en dire seulement deux, ses meilleurs accomplissements de l'année. La Barclay, la BFC, donc il a fini deuxième sur plus de 400 coureurs, qui est un exploit incroyable. Aucun Québécois a réalisé ça avant. Puis, il revient tout juste de la backyard des championnats qui ont eu lieu canadiens dans l'Ouest canadien. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Cédric Chavanne, et bienvenue sur le podcast.
Ben, merci à toi, Jean-François. Ça fait plaisir d'être là.
Merci beaucoup. Écoute, comment que le sport est arrivé dans ta vie, Cédric?
Aussi loin que je peux me rappeler, j'ai toujours aimé le sport, là. Quand j'étais petit, mes parents ils m'ont inscrit à des cours de tennis. Là, j'ai fait du tennis pendant un bout de temps. Okay. Mon père faisait de la planche à voile, puis on partait en vacances en Corse chaque été. Puis là, un été, j'en avais marre de le regarder partir sur sa planche. Je lui ai dit que je voulais en faire aussi. Donc là, il m'a acheté une planche pour enfants, puis j'ai appris ça. Puis dès le premier été, je traversais tout le golfe qui était en face de notre plage, là, avec mon grand-père qui m'accompagnait en Zodiac.
Okay.
Donc ça a toujours été quelque chose que j'adorais faire. Après ça, j'ai fait du volleyball, du squash, je courais un petit peu, là, plus jeune, mais jamais plus de 30 minutes, là, tu sais, c'était plus, je cours le plus vite que je peux, jusqu'à ce que j'en puisse plus, puis that's it, là.
OK. Donc, tu savais pas que tu allais devenir un coureur d'endurance à cette époque-là?
Non, du tout. Pour moi, les longues distances, c'était chiant, là, je préférais aller vite et court, là.
Ouais, OK, super. Puis, excellent. Puis, est-ce que tu as commencé la course en Europe ou c'est vraiment plus au Québec? En fait, ça fait combien de temps que tu es au Québec aussi?
Ça fait depuis 2011.
OK, super. Ouais. Donc, plus de 10 ans.
Je suis venu pour le travail.
OK.
Moi, je faisais des études en océanographie jusqu'au niveau doctorat. Là. J'ai fait ça à Hawaï, aux États-Unis.
Oh, wow!
Et puis, après ça, j'ai fait un post-doc en Angleterre. Puis okay. Là, je cherchais à trouver un poste quelque part. Donc, j'ai postulé aux US, en France, puis jusqu'à ce que j'entende parler là, de ce poste à Rimouski. Et okay. Du coup, j'ai regardé un petit peu l'océanographie du Saint-Laurent. Puis, il y avait tout ce qui me plaisait au niveau de mes sujets de recherche. Donc, okay. J'ai postulé et puis je l'ai eu, là, alors que les autres postes, je ne les ai pas eus. Donc, j'ai okay. pris la chance qui s'offrait à moi.
Ah, excellent. Puis, est-ce que tu as déjà participé au marathon de Rimouski?
Ouais. La première année où je suis arrivé ici, si on revient à ta question de la course.
Ouais.
Je courais quand j'étais petit, là, juste comme je te disais, des petites distances. Un peu plus tard, là, adolescent, j'avais un copain, on était à peu près du même niveau, il était un petit peu plus rapide que moi. Puis on avait un parc près de l'école d'ingénieurs dans laquelle on était. Donc ça, c'était à l'époque où j'étais en France.
OK.
Souvent, on se challengeait, là, on essayait de faire le tour du parc complet. Je pense que ça faisait 4 points quelque chose kilomètres, le plus vite possible. Puis c'était à celui qui arrivait à battre l'autre, là. Donc, il faisait un temps, là. Puis après, je m'essayais jusqu'à ce que je le batte. Puis après, il réussit jusqu'à ce qu'il me batte. Puis à la fin, je crois qu'il avait réussi à faire un temps que j'ai jamais réussi à dépasser, là.
Donc, OK.
C'était ça, la course à l'époque. Puis quand je suis parti à Hawaï pour mes études, là, j'ai complètement arrêté parce que j'avais envie de faire de la planche à voile. Je me suis mis au surf aussi.
Il fait trop chaud pour courir à Hawaï.
Ouais, c'est ça, bien trop chaud. Puis donc, j'étais vraiment heureux avec les sports nautiques. Je faisais que ça. Et quand j'ai déménagé en Angleterre pour mon post-doc, là, j'étais pas loin de la mer du Nord, mais j'avais gardé un matos de tout ce qu'il fallait pour faire de la planche, puis une planche de surf. Mais quand j'ai okay. vu les conditions de vagues devant, j'ai fait « Ah, que ça ne me donne pas envie ». Je me suis dit « Ok, il faut que je change de sport, puis qu'est-ce que je pourrais faire qui me défoule rapidement, puis qui me prenne le moins de temps possible ?» Parce que j'avais déjà deux jeunes enfants à l'époque, puis j'étais en post-doc, là, ça me prenait beaucoup de temps.
Ouais, beaucoup
là,
d'énergie.
J'ai repensé justement à la course à pied que je faisais quand j'étais plus jeune, puis que c'est vraiment simple, là, il te suffit d'avoir des chaussures, tu mets ça, tu sors et tu cours.
Ouais.
Donc, je me suis remis à la course, je crois que c'était en 2009. Puis pour me motiver, je me suis dit, bon, bah, tu vas t'entraîner petit à petit pour arriver à faire un marathon un jour.
OK.
Donc là, j'ai acheté un bouquin Courir pour les nuls, où il y avait des plans pour les différentes distances.
OK.
Et puis j'ai commencé par un 10 kg. Après ça, je me suis mis sur un demi-marathon. Puis l'année d'après, pour le marathon, mon premier marathon, je me suis dit, bah tiens, on va faire le marathon d'Honolulu. J'ai vécu là pendant 8 ans à
Ouais.
Hawaï, puis j'ai
Ouais,
jamais
ouais.
couru là-bas. Je vais faire le
OK.
marathon d'Honolulu. Donc c'est ça, je me suis entraîné toute l'année. Et puis j'ai fait ce marathon-là, il faisait extrêmement chaud. J'ai failli faire un coup de chaleur au milieu du parcours, mais j'ai quand même réussi à me rendre au bout. Puis
OK.
après ça, c'est là où j'ai déménagé à Rimouski l'année d'après. Donc là, quand je suis arrivé ici, j'ai vu un qui avait un club de course sur route, la Cavale. Donc je me suis inscrit là-dedans. Puis deux qui avaient un marathon.
Ouais.
Mais en fait, à ce moment-là, je venais de lire. En fait, j'avais souvent des blessures sur l'avant du tibia, là, tu sais, on appelle le shin splint, je sais pas comment on dit en
Ouais,
français.
ouais, 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 ouais.
Puis j'ai essayé de voir d'où ça venait, puis je suis tombé sur le livre Born to Run,
Un
où,
grand classique.
ouais, c'est ça. Déjà, ça m'a ouvert les yeux sur l'existence des ultra-marathons, j'avais aucune idée. Puis ça parle aussi beaucoup de la technique de course, qu'il faut mieux courir comme si on courait pieds nus en atterrissant sur l'avant du pied. Et là, je me suis dit, ah, mais ça a du sens, là, quand on atterrit sur le talon, tu sais, ça projette le pied vers le sol, l'avant du pied. Donc le petit muscle devant le tibia, il se raidit pour empêcher ce mouvement-là. Mais lui, il est tellement petit par rapport au mollet, il n'est pas fait pour ça. Donc ça cause
Ouais.
ma technique que je me blesse toujours là. Donc là, je me suis dit, OK, il faut que je change ma technique. Puis je vais y aller carrément cash. Là, je vais commencer à courir pieds nus. Donc
OK.
là, c'était même, j'ai commencé ça en Angleterre avant de venir ici. Donc après mon deuxième marathon, qui était le marathon de Paris, j'ai viré mes chaussures. Puis je me suis mis à sortir en courant pieds nus. Donc au début,
Wow.
c'était genre 100 mètres, puis là j'avais déjà mal sur le plan des pieds, je reviens chez moi. Le lendemain, 150 mètres. Puis petit à petit, c'est j'allongeais les distances, ma plante de pied, elle se faisait. Là, je déménage à Rimouski, je continue à courir pieds nus tout l'été. Puis du coup, au marathon de Rimouski, je me suis dit, bah, je vais faire le 10 km pieds nus. Et
OK.
j'ai couru le 10 km pieds nus, j'ai fait mon meilleur temps sur un 10 à cette époque.
Wow.
Et bon, après, l'hiver est arrivé, là j'ai plus courir pieds nus, il faisait bien trop froid. Donc j'ai perdu ma protection sous la plante des pieds, puis j'ai pas voulu reprendre le temps de la refaire les saisons suivantes. Mais après, je me suis acheté des chaussures minimalistes, et puis j'ai quand même gardé ce patron de course en atterrissant sur l'avant du pied.
Ouais, puis je pense qu'il est une bonne pratique, là. Moi, ce qu'on m'a souvent dit par des coachs, c'est si on n'entend pas tes pieds au sol, c'est que tu as une bonne technique.
Ouais, c'est ça.
Parce que
Ah
quelqu'un
ben.
qui fait beaucoup de bruit, c'est souvent, comme tu dis, les talons où il y a quelque chose qui pourrait être optimisé, là.
Ouais, ben, quand je courais pieds nus cet été-là, les personnes, quand j'arrivais par derrière sur les chemins, là, tout le temps, je les faisais sauter, et ils ne m'entendaient pas venir, puis ils me voyaient arriver juste à côté d'eux au dernier moment. Même les chiens, je les ai sautés en arrivant derrière eux.
Super. Puis, donc, l'idée de courir des plus longues distances, c'est venu vraiment en lisant des livres puis en t'intéressant plus à la course à pied.
Ouais, ben. Ouais, c'est alors que quand j'étais petit, les longues distances ne m'attiraient pas. En fait, ce qui m'a vraiment poussé à essayer les longues, c'est que j'ai un problème de circulation dans les pieds
OK.
qui arrive que quand je cours à un certain rythme, donc il faut que ce soit assez élevé. Et puis là, au bout d'à peu près 30 minutes, je commence à avoir les pieds qui s'engourdissent.
OK.
Et si je continue à ce rythme-là, j'ai fini par avoir vraiment des lancements d'engourdissement dans la jambe et je suis obligé de m'arrêter tellement ça fait mal.
OK.
Donc du coup, en fait, j'ai remarqué que si je courais moins vite, ça n'arrivait pas. Mais tu sais, courir moins vite sur un 10 kg ou même un demi, là, ça me faisait faire des temps de merde. Donc il a fallu que j'allonge jusqu'au marathon et au-delà pour que je puisse vraiment courir à ma capacité sans avoir ce problème.
OK.
Et c'est ça qui m'a amené vers les longues. Puis
OK.
comme le marathon, au bout d'un moment, j'en avais fait le tour. Je visais la barre des 3 heures, puis j'ai réussi à passer dessous. Après ça ne m'intéressait plus. Là, je me suis mis en trail, puis à allonger les distances.
OK, super. Puis ça a été quoi ta première course en sentier?
La toute première, mon premier ultra trail en sentier, ça a été en France en 2013. avec ce même ami dont je te parlais, avec qui je
Ah
courais quand j'étais
oui.
plus jeune.
Ouais.
Lui aussi, il avait continué à courir, et puis on s'était dit, ok, on aimerait ça, essayer les ultra trails, et on va se faire celui-là. C'était un 65 km, on va le
OK.
faire ensemble. Et puis, donc on l'a couru. Alors au début, on était vraiment dans le pack, là, c'était un single track, on ne pouvait pas dépasser. Puis là, mon ami, il commence à avoir marre, il commence à se dire, bon, ça va trop lentement. Puis là, il se met à couper, essayer de doubler tout le monde. J'essaye de le suivre, mais là, je me fatigue rapidement. Je me dis, non, on a 65 km, et il faut que j'aille mollo. Donc, je laisse filer, là, je laisse faire son truc à lui. Puis, je continue à mon rythme. Là. Après, le sentier s'élargit, je commence à doubler les autres coureurs. Puis, à un moment donné, je le rattrape. Alors, je pensais qu'il était vraiment en avant de moi. Puis là, il avait l'air de mal filer. Donc, là, je lui dis, bon, bah, tu sais, lâche pas, moi, je continue, je me sens bien. Puis, tu me rattraperas sûrement plus tard sur le parcours. Là. Pour moi, c'est pas possible que je le batte. Puis finalement, je suis arrivé une bonne heure d'avance sur lui, je crois, à la fin de cette course-là.
OK,
Donc
super.
j'étais content là, parce que plus jeune, lui, c'était lui qui me battait.
Fait que, il est peut-être plus rapide, mais tu es plus endurant. Peut-être plus fort en endurance.
Peut-être, mais il avait peut-être aussi mal géré son début de course.
Ouais, ben écoute, un premier ultra
Là.
marathon, là, c'est
Ouais.
fréquent le monde qui casse rapidement, là.
Ouais.
Super. Puis, est-ce que tu pratiques d'autres sports que la course à pied?
Ouais, l'hiver, je fais beaucoup de snowboard, j'adore le snowboard,
OK.
mais j'essaye de le faire pour garder le travail sur le cardio,
Oui,
j'essaye de le
oui.
faire sans prendre les remontées mécaniques, donc je me suis acheté un splitboard,
Oui,
et puis je
oui,
monte en peau de phoque, puis
oui,
ensuite je redescends en snowboard, et j'adore vraiment ça, hein.
oui. OK. OK,
Donc il y a
super.
ça que je fais l'hiver, puis sinon, ben, pendant une couple d'années, je m'étais mis à faire du triathlon, parce que... Avant ça, à chaque année où je faisais quasiment que de la course, bon, sauf la saison hivernale, ben, je me blessais. J'avais souvent des claquages au mollet ou des tendinites. Puis ça durait quelques semaines avant de partir, donc il fallait que j'arrête de courir. Puis à un moment donné, une année, là, je m'étais blessé. J'avais fait tout un programme, là, le programme de la clinique du coureur pour revenir en douceur. Ça avait bien fonctionné.
Ouais,
Là, j'étais
avec les
prêt.
fractionnés puis tout ça, j'imagine.
Ouais, c'est ça, t'es marche-course fractionnée
Ouais,
et
ouais,
tout.
ouais, ouais.
Donc là, j'avais fait tout ça, mon mollet semblait bien, je recommence à courir, je recommence à faire les intervalles avec le club. Première séance d'intervalle, on se fait ça dans une petite côte, mais vraiment à peine, c'est un faux plat montant. Puis là, je me claque l'autre mollet, pas celui que je devais
Ah.
réparer, l'autre. Donc là, j'étais en tabarnak, puis j'ai mis un post sur Facebook en maudissant mon corps, etc. Alors que d'habitude, je fais pas ce genre de choses. Puis là, j'ai des amis coureurs qui ont vu mon poste puis qui m'ont dit, tu sais, ce serait bien que tu devrais essayer le triathlon, là, tu sais, de varier un peu les sports, peut-être que tu te blesserais moins. Donc, je me suis dit, ok, bonne idée. En plus, j'avais déjà le triathlon en tête depuis un bout de temps, je vais essayer. Donc là, je me suis mis à varier mes sports, à faire aussi de la natation puis du vélo. Puis effectivement, pendant 2 années, je ne me suis plus blessé. Puis j'ai fait
OK.
quelques compétitions de triathlon. Bon, je gardais aussi des compètes de course. Mais finalement, je suis vraiment pas un bon nageur, là. Je suis plus rapide à la brasse qu'au crawl. C'est donc, je sortais toujours de l'épreuve de nage quasiment le dernier.
OK.
Après ça, en vélo, je suis moyen, là. Donc, tu sais, je doublais les plus lents. Puis, bon, je récupérais quelques places, mais j'étais vraiment
À
toujours
la course, clenche tout le
dans
monde
le bas du
après.
classement. Puis arrivé à la course, c'est là où je clenchais plein de gens, là. Puis au final, c'est j'arrivais mi-pack, là où je faisais jamais de performance.
Ouais.
Donc là, je commençais à trouver ça plate de s'entraîner autant pour finalement ça performe pas tant. Puis finalement, ce que j'aimais dans les trois sports le plus, c'était la course. Donc j'ai fini
Ouais.
par refaire que de la course, plus de triathlon.
OK.
Mais je pense que mon corps avait eu le temps de s'habituer. Puis depuis, je me suis plus reblessé. J'ai eu des petits bobos, mais plus de grosses blessures qui m'a empêché de courir pendant plusieurs semaines.
OK, super. Puis, écoute, tu as eu une saison de feu, tu as un parcours de vraiment impressionnant, là. Mais à ce moment, alors qu'on se parle, c'est laquelle de tes courses que tu es plus fier?
Bah là, je te dirais que c'est ma deuxième place à la Barclay Fall Classic cette année. Ouais.
Ouais.
Parce que d'après un autre coureur là, qui a fait beaucoup d'éditions, qui s'appelle Anatoly Ross, il
Ouais.
était là aussi cette année. C'était l'édition la plus difficile qu'il avait faite. Donc
OK.
les conditions là d'avoir réussi à être deuxième, je suis assez fier de moi, même si évidemment j'aurais rêvé à être le premier puis avoir mon ticket pour la vraie Barclay.
Ouais.
Mais
Mais
j'en
en
suis
fait,
content.
pour parler de la Barclay Park Classic, tu l'avais faite en 2021. Fait que c'est sûr que ça a dû t'aider un peu pour.
Ouais, tout à fait. Cette année, j'ai pas fait la même erreur qu'en 2021. En 2021, ben j'avais aucune idée de ce qu'était cette course. Et puis j'ai voulu me renseigner un peu. Puis là, je sais plus qui m'avait parlé d'un ami à lui. Ah, je crois que c'était Yvan Lheureux. M'avait parlé de
OK.
Pierre Fauché, qui l'avait déjà fait. Donc j'avais contacté Pierre Fauché
Ouais.
pour lui demander qu'il me parle un peu de la Barclay, etc. Puis je lui avais dit, c'est quoi le. Tu sais, je lui avais carrément dit, moi j'aimerais la gagner. J'avais aucune idée à l'époque si j'avais les capacités de le faire ou pas. Mais c'était mon objectif, là. Je voulais essayer de la gagner pour avoir ce fameux golden ticket. Puis
Ouais.
j'avais dit, quoi la stratégie là? Donc là, il m'avait dit, ben, tu verras, il faut que tu essayes d'être resté assez proche du groupe de tête, mais ça part super vite là. Sauf que souvent, les premiers qui arrivent dans Rat Job, ben là, ils perdent du temps parce qu'ils luttent contre les ronces. Donc tu peux te permettre d'arriver un peu après, puis après tu les rattrapes. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis
OK.
parti à mon rythme, j'ai pas essayé de suivre les premiers, qui allaient trop vite pour moi. Et puis je suis arrivé dans Rat Joe. Bon, c'était pas le passage était vraiment pas bien défini là. Il a fallu quand même lutter aussi. J'étais
Ouais.
avec d'autres coureurs là, on s'est pris des tours pour passer en premier. Mais je pense qu'on a
OK.
quand même réussi à le faire plus vite que le groupe de tête, ce qui fait que j'ai fini par les rattraper. Dans un passage peu après là qui s'appelle Testicle Spectacle.
Ouais.
À ce moment-là, il y avait un orage, c'était le déluge, on entendait le tonnerre, il y avait les éclairs. Puis moi, je sais pas, il y avait des torrents de boue, mais je m'éclatais là-dedans. Donc petit à petit, j'ai rattrapé le groupe de tête. Puis là, je me suis dit, ok, génial, t'es avec le groupe de tête, t'es encore full d'énergie, t'as juste à essayer de rester avec eux puis à les clencher
Maintenir
vers la
ça.
fin, quoi. Ouais.
Ouais.
Mais j'ai fait l'erreur de me fier entièrement sur eux pour l'orientation. Là, je me suis dit, il y a des vétérans là-dedans, ils savent mieux que moi le parcours, j'ai plus besoin de faire gaffe où je suis. Et en fait, on a manqué un tournant vers le ravito. On a continué sous les lignes électriques.
Ouais.
À un moment donné, commencé à trouver que ça faisait long. Je leur dis, hey, vous êtes sûr qu'on n'est pas allé trop loin? Puis là, il y en a un qui fait, non, 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 j'ai déjà fait, c'est un peu plus loin, on continue. Bon, je l'ai suivi. Puis à un moment donné, au loin, on voit une route. Puis là, les gars, ils commencent à dire, ah, ok, non, ça c'est pas normal, on est vraiment allé trop loin. Donc là, on a fait demi-tour, on a retrouvé le ravito, mais là, les premiers derrière nous, ils étaient passés 1 heure avant, donc c'était fini pour la victoire.
Ouais.
Donc là,
Puis
cette année, ben, je me suis dit, ok, là, tu fais pas la même erreur et tu vas pas suivre aveuglément les premiers. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que je voulais garder la même tactique là, de ne pas suivre le groupe de tête, de les laisser se battre les premiers dans Radjo. Et effectivement, là, quand on est parti, il y avait encore une fois peut-être bien 5 coureurs devant moi, dont 2 qui étaient vraiment loin sur la route, qui couraient à fond en tête. Je me suis dit, ok, laisse-les aller, ils seront devant toi dans Radjo, c'est parfait. Puis après, dans la première montée, là, je me suis même laissé dépasser par plein de coureurs. Je pense que j'ai dû arriver juste dans les 20 premiers au premier ravito. Mais
OK.
ensuite, j'ai commencé dans les sentiers single track à en dépasser plusieurs, surtout en descente.
OK.
Puis quand je suis arrivé au premier ravito où il y avait ma blonde qui m'attendait, je lui avais dit de me dire à combien étaient les premiers, puis combien il y en avait devant moi.
Ouais.
Sauf qu'elle a oublié la deuxième information, donc elle m'a dit 15 minutes. Mais elle m'a pas dit combien, parce qu'elle
OK.
est déjà deuxième à ce moment-là. En fait, il y en avait ceux qui étaient partis très vite, là, qui s'étaient perdus d'emblée. Ils avaient pris un mauvais virage, puis ils étaient hors course, là. Et les autres, je les avais doublés dans la descente d'avant. Ce qui fait que j'étais déjà deuxième, mais je croyais, moi, qu'il y en avait encore au moins 5 devant. Donc là, je continue. J'arrive au début de Radjo, qu'on faisait en descente cette fois-ci. Puis là, ben, il y avait une toute petite trace que le premier coureur avait fait devant moi, mais rapidement, elle disparaissait, là. Puis il fallait lutter contre les ronces. Donc là, je commence à descendre là-dedans, puis je commence à lutter tout seul dans les ronces. J'essaie de les enjamber, je me fais accrocher de partout. Rapidement, les coureurs derrière moi me rattrapent, dont Andrea, la fille qui a fini en première, là, qui
OK.
est à prendre des tours. Là, elle passe devant moi, elle clear un peu la trail. Après, il y a quelqu'un d'autre qui passe devant elle. Après, c'est de nouveau de mon tour, je passe devant. Puis là, à un moment donné où j'étais devant, je commence à être écœuré de lutter contre ces ronces. Puis je me rappelais que l'année d'avant, une technique qu'on avait faite avec l'autre gars avec qui j'étais, c'était qu'on s'était mis à ramper sous les ronces. En rampant au sol, vraiment, t'es sur ses coudes et ses genoux, on arrivait à être en dessous des épines et à pas se faire trop graffiner. Mais là, je pensais pas que c'était faisable en décembre, t'sais, avec la tête en bas. Mais là, j'étais tellement écœuré que je me suis dit, ok, je vais essayer ça. Donc là, je me fous au sol, puis je commence à ramper la tête en bas, puis finalement, ça marchait bien. Donc là, j'ai continué comme ça. Petit à petit, j'ai distancé les autres derrière qui ne voulaient pas faire pareil. Puis, à mi-chemin de cette descente, je rattrape le premier coureur qui s'appelait Luc,
OK.
et qui avait initialement, tu sais, il était arrivé genre 20 minutes en avance sur moi dans cette descente. Puis là, je l'ai rattrapé parce que lui, il était tout seul pour se battre.
Wow.
Puis là, bah, du coup, il me dit ok, vas-y, passe devant. Donc, je continue à ramper sous mes ronces là. Puis finalement, j'arrive tout en bas. Je commençais à cramper là, c'était quand même assez difficile. Il faisait chaud. Puis là, j'avais plein de choses dans mes chaussures, dont des épines qui me faisaient mal aux pieds.
Ouais.
Donc là, tu sais, je m'arrête en bas de Radjo, le temps d'enlever mes souliers, de les vider, de les remettre. Donc là, il y a quelques coureurs qui me passent devant. Puis je repars. On passe sous la prison, on enjambe on grimpe le mur, on traverse la prison. Puis là, il y avait un autre ravito où ma blonde m'attendait. Puis là, elle me dit, ok, t'es juste à 2-3 minutes des premiers. Je fais, ok, c'est bon, ils m'ont pas mis trop de temps. Donc je continue. Là, on monte une montée difficile qui s'appelle MetLab.
Ouais.
Je double encore quelques coureurs là-dedans. Après, on rebascule sur Testicle Spectacle. Je le descends. Puis là, cette fois-ci, je savais où il fallait tourner. Et en plus de ça, ils avaient mis une pancarte. Donc, on ne pouvait plus se tromper cette année.
OK.
Donc là, je vois la pancarte. Ok, c'est là qu'on tourne. J'arrive au ravito. Puis là, il y avait juste deux coureurs. Il y avait Luc puis Aaron. Et là, je vois aussi un ancien coureur de la Barclay, le dernier finisseur, John Kelly, qui
Oui.
faisait du bénévolat.
Ok, oui, qui est une
Ouais,
légende, là,
ouais.
pour
Et là,
ceux
je le
qui
vois, je lui
connaissent.
fais. Oh, you're John Kelly, you're a legend! Puis là, il m'aidait à remplir mon eau, il me donne un coke tout frais et tout, c'était vraiment cool. Et je repars, puis Aaron venait juste de repartir, donc je repars en deuxième place. C'est lui qui était encore là, mais il est reparti rapidement derrière moi. Donc là, on repart tous les trois, là, puis on croise les autres qui arrivent au ravito, mais on avait un petit peu d'avance sur eux. Puis on remonte Testicle Spectacle. Puis là, l'énergie était bonne. À un moment donné, je commence même à passer devant Aaron, puis je me retrouve, tu sais, en tête de la BFC. Puis là, ça m'a fait vraiment tout bizarre. Je fais, putain, t'es en tête de la BFC, là. C'est malade. Mais à la fin de la montée de Testicle, tu sais, je poussais quand même beaucoup, j'étais essoufflé. Puis j'entendais Aaron juste derrière moi, il n'avait pas l'air essoufflé pantoute. Donc là, je me suis dit, ah, ok, lui, il en a encore dans le ventre, là, il va être dur à battre. Puis après ça, on redescend. MetLab dans l'autre sens. Là, de nouveau, j'avais plein de roches, plein de trucs dans mes souliers. Je suis encore obligé de m'arrêter en bas, de les vider. Aaron et Luke me passent devant. Je remets mes souliers, je les suis à quelques minutes derrière. Puis, ils étaient devant moi pendant toute la prison. Puis, même en commençant de nouveau la montée de Radjo. Puis là, finalement, au milieu de la montée, je rattrape Luke qui en pouvait plus. Là, il avait vraiment l'air. Il faisait vraiment chaud et il avait l'air assez à bout là. Donc là, je lui donne une petite tape dans le dos. Je lui dis, allez, lâche pas, on est à la moitié là. Puis je continue à grimper. Puis tu sais, je donnais tout ce que j'avais pour essayer de rattraper Aaron. Et finalement, j'arrive en haut. Là, il y a des gens qui nous pointent, qui nous poinçonnent le dossard. Là, je leur demande, OK, il est reparti il y a combien de temps? Ils me disent, à peu près 7 minutes. Je me dis, bon, OK, 7 minutes, il reste encore pas mal de courses, ça se rattrape. Puis là, il s'ensuit une longue descente roulante vers proche de la ligne d'arrivée. Donc là-dedans, au moins, la descente, c'est ma force. Je me lâche à toute vitesse, je descends ça à fond. Puis j'arrive à cet endroit-là qui s'appelle le Decision Point, parce que là, en
Ah.
fait, c'est là que Laz,
C'est
le
là que
directeur de la Barclay,
tu décides si tu fais le marathon ou tu finis.
voilà, c'est ça. Là, il
Ouais.
t'attend, puis il te dit Do you want to end your suffering now and have a marathon? Or you want to keep going for about 10K? And have the 50K finish. Donc là, j'arrive à Laz. L'année dernière, c'est la question qu'il m'avait posée. Mais là, cette année, il me regarde droit dans les yeux, puis il me dit, He is 3 minutes ahead. Go get him. Donc là, il me disait que le premier était passé juste il y a 3 minutes, puis il fallait que j'aille
Ouais.
le chercher. C'est Laz qui te dit ça, là. Ça m'a boosté. Je me suis dit, OK, je viens de lui remettre 4 minutes dans la descente. Il reste une grosse montée et une descente. Je peux peut-être l'avoir dans la dernière descente.
Ouais.
Donc là, boosté, tu sais, je me remets à courir sur le faux plat. On reprenait la route qui retournait vers la Yellow Gate. Je cours tout le long de ça. Bon, là, après, j'arrive dans le sentier quand même assez raide. Je me remets à marcher. Mais j'essayais vraiment d'aller le plus vite que je pouvais. Tu sais, je poussais sur mes jambes avec mes mains. J'essayais de ne pas prendre trop de pause. Je savais qu'il me fallait encore de l'énergie. Je commençais à manquer d'eau, donc il me restait une barre à manger, une barre nacre, là, donc je commençais à manger ma barre. Puis là, j'arrivais pas à la mâcher tellement j'avais la bouche sèche. J'ai passé toute la montée à bouffer ma barre. Et je me suis dit, il faut que tu la bouffes, il faut pas que tu manques d'énergie dans la descente. Et puis après, ben c'est ça, j'ai fait la descente à fond la caisse, vraiment en me lâchant dans la descente, en espérant le rattraper, était jusqu'au dernier moment. Et puis en fait, il est arrivé 16 minutes avant moi. Donc ça veut dire
Ah
que dans cette
oui.
dernière partie, il m'a mis 13 minutes.
Ça veut dire que sa montée est montée vraiment en feu
C'est
la
ouais, il est
dernière.
monté comme un fou. Puis je lui ai parlé après et il m'a dit que l'année dernière, il avait fini deuxième aussi, comme moi, cette année. Et
OK.
qu'il était premier jusqu'à cette fameuse dernière montée et qu'il s'est fait doubler par un coureur dans cette dernière montée. Et donc là, il s'était dit cette année, non, tu sais, il avait vu que j'étais pas loin de lui. Il a fait non,
Il
pas une
s'est
deuxième
gardé
fois.
du jus, là.
Donc là, il s'était gardé du jus, puis il a tout donné pour pas que je le dépasse. Puis il a
Ouais,
réussi,
ouais,
là,
ouais.
il a fait vraiment fort.
Puis pour
Hein.
avoir parlé à Mario Villemur, qui l'a fait aussi, là, il a dit que c'était très difficile cette dernière montée-là.
Ouais, parce que t'as plus de jus, puis elle est longue. Ouais.
Ouais. Excellent. Puis,
Mais c'était toute une course, là, j'ai vraiment tripé.
alors, écoute, c'était toute une fierté québécoise de voir ça arriver, là. Puis, pour contextualiser un petit peu plus, le Barkley Fall, c'est une édition écourtée de la Barkley Marathon, en fait,
Ouais, c'est ça.
qui est environ l'équivalent d'un tour de la Barkley, mais
Ouais.
différent, il n'y a pas de livre, c'est plus une course, mais qui est marquée très sommairement, comme on disait.
Ouais, c'est ça. En fait, ça, tu sais, ça garde un peu le même concept où tu connais la carte que la veille.
Ouais.
Bon, là, par contre, il n'y a pas besoin de la recopier sur une carte papier qu'on aurait emmené nous. Il nous donne vraiment une carte imprimée sur un tissu. Puis ça, c'est vraiment génial comme concept parce que l'année dernière, où il pleuvait le déluge, bah, la carte, elle
Ouais.
était lisible tout le long, là, elle ne s'est pas abîmée.
Ouais.
Donc, tu sais, tu as cette carte-là la veille, tu l'étudies, puis ça passe quasiment que dans des sentiers du parc,
Ouais.
sauf les passages sous ligne électrique, là, Radjo, MATLAB et Testicle Spectacle. Mais là, ce n'est pas des endroits où tu peux te perdre parce que tu suis la ligne. T'sais.
Ouais,
Donc
ouais,
finalement, c'est
ouais.
pas de l'orientation, là, tu sais, il faut juste, tu mémorises quel sentier il faut prendre, où sont les intersections. Puis normalement, c'est pas dur à suivre.
Ouais, puis ce que les gars m'ont dit aussi, Pierre Fauché et Mario Villemur, c'est que ça passe par toutes les places légendaires du parcours de la Barclay.
Ouais. Bah, sauf, à mon avis, il y en a une partie qui est vraiment hors trail dans la Barclay que là, on fait pas.
Ouais.
Mais tu sais, les places
Pour
la plus
garder
légendaire,
quelques
c'est.
secrets un peu, là.
Ouais, c'est ça. La plus légendaire, c'est Rat Joe, là. Puis je pense qu'une fois que tu as fait Rat Joe avec des ronces dans ta vie, là, il n'y a plus rien qui peut te faire peur. C'est
Ouais,
vraiment quelque
puis
chose.
il y a tellement de dénivelé sur cette course-là, là, de montée et de descente, là, c'est
Ouais.
complètement cinglé. Anatoly disait que c'est l'équivalent à peu près de la CCC en D+ sur 50 quelques kilomètres, là.
Ouais, bah là, j'ai remis le parcours sur un truc topographique après l'avoir fait pour voir.
Ouais.
Puis ça me faisait presque 4000 mètres de D+, là 3880 ou comme ça,
OK.
sur 58 km.
Wow. C'est vraiment beaucoup.
Puis c'est pas juste le D+, c'est la technicité de certains passages, là. Les passages sous ligne électrique, c'est hyper technique. Il y a des endroits
Ouais.
tellement raides, t'es obligé de t'accrocher à la végétation pour grimper. Quand tu descends, t'es obligé de glisser sur tes fesses, il n'y a pas moyen de faire autrement.
Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui a envie de se lancer dans la Barkley Fall Classic? Qu'est-ce que tu recommanderais?
Bah faire beaucoup de D+
Ouais.
dans l'entraînement, y compris t'sais, des D+ techniques bien raides, autant en montée qu'en descente, là, pour s'habituer à courir dans ce genre de choses. S'habituer pour. Pour Rat Joe, ça dépend si c'est un coureur qui pense être dans le groupe de tête. Faut s'habituer à passer dans des plantes, puis bon, les ronces, là, peut-être pas en entraînement, parce que ça te déchire la peau de partout, là, mais faire ça peut-être
Ouais.
dans des plantes sans piquant, mais avoir l'habitude de passer à travers les plantes, de ne pas trop voir où tu poses les pieds, ce genre de choses. Mais il y a aussi des bouts roulants. Il y a beaucoup de sentiers qui se roulent vraiment bien, donc c'est travailler quand même sa vitesse, là.
Ouais,
Les parties
ouais,
roulantes,
ouais,
il faut les courir vite.
ouais. Ouais, puis surtout, comme tu disais, Pierre disait, c'est que le monde part tellement rapidement.
Ouais. Ça part vite. Puis, ben, c'est même si c'est juste officiellement un 54, ça ne suffit pas d'avoir fait un 54 avant. Hein.
Non,
Faut
non, non.
savoir que ça va durer de 10 à 13 heures. Donc, faut partir pour être entraîné pour durer ce temps-là.
Ouais, excellent. Donc, toi, c'est dans tes plans de faire le vrai Barkley Marathon un jour.
Ben, c'est dans mes rêves, ouais. Puis,
Ouais.
donc là, ben, j'ai manqué mon golden ticket.
Ouais.
Mais
Ben, t'es passé
ouais,
vraiment proche, là.
je ne suis pas passé loin. Et surtout, ben, j'ai eu la chance d'apprendre la date où il faut soumettre son fameux essai.
OK.
Donc, je vais m'essayer cette année-là. On verra si l'AS me donner ma chance ou pas.
Donc, on se croise les doigts pour avril prochain, c'est environ ça, là, dans
Ouais,
le
c'est
coin de
ça.
Pâques, là.
Ouais. Puis si ça ne marche pas, ben, je me suis réinscrit à la BFC pour l'année prochaine. Je réessaierai une nouvelle fois de la gagner. On verra.
Ouais, super. Puis si tu es pris pour la vraie Barkley Marathon, est-ce que tu vas faire la BFC quand même?
Bah, au début, je me disais que non, mais finalement, j'ai appris que le fameux. Attends, non, c'était. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est un coureur au championnat de Backyard là, cette année
Ouais.
qui m'a dit que il connaissait un gars qui avait fait la Barclay, la vraie. Il avait même fait la fun run, là, quand même, trois boucles. Puis l'année d'après, il avait pas été repris. Donc, tu sais, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu es nécessairement repris. Ce qui fait que je me dis que bah, je vais peut-être refaire la BFC quand même, même si jamais j'étais pris cet hiver,
Ouais.
pour me donner le max de chances de pouvoir réessayer encore, là, parce que ça m'étonnerait que j'arrive au bout à la première édition, là, donc il faudrait que je me reprenne à plusieurs fois. Là.
Puis, admettons, là, on parle hypothétiquement, mais si tu es choisi, là, ton objectif, c'est de la finir.
Ouais, mais ça, c'est le rêve, là. Après,
Ouais,
j'essaierai de
c'est
me rendre
clair.
le plus loin que je peux. Hein.
Ouais. Puis, tu me disais en pré-entrevue, tu as eu la chance aussi de faire quand même des études avec des cartes pour connaître un petit peu plus l'orientation.
Ouais, ben l'année dernière, y avait on a un club d'orientation à Rimouski là, qui organise des petites courses.
OK.
Donc là, j'avais fait deux petites courses d'orientation pour justement commencer à m'habituer à ça. Et puis cette année, j'en ai fait une autre plus longue. Là, c'était un événement de 12 heures. Et donc, à chaque fois, tu sais, on a notre carte. Puis je me rends compte que j'arrive assez bien à m'orienter sur la carte, à savoir où est-ce qu'on est au fur et à mesure, à l'orienter dans la bonne direction et tout ça. Et puis bah, cette année, j'ai même carrément mis en pratique ça à la Chartreuse Terminorum. Ça, c'est une course en France qui est vraiment inspirée des Barclay Marathons. C'est le même principe, c'est cinq boucles, alors c'est dans le massif de la Chartreuse. C'est une boucle plus longue que la Barclay, là, ce qui fait à peu près 80 km,
Oh.
avec, il y a quoi? Il y a 5000 mètres de D+, je crois,
OK.
et que tu dois faire en moins de 16 heures. Et ensuite, ben, tu sais, pour faire l'événement complet, il faudrait que tu fasses ça cinq fois, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à le faire.
OK.
Donc là, je m'étais inscrit à ça il y a plusieurs années, mais j'étais sur liste d'attente. Puis petit à petit, ben, mon tour a fini par venir cette année. Donc là, j'y suis allé, c'était au mois de juin. Et
OK.
alors au début, ma stratégie, c'était de suivre des vétérans pour essayer de compléter au moins une première boucle. Parce que j'avais peur de même pas réussir à faire une boucle. Donc le départ est donné, ça part super vite aussi. J'essaie de suivre le groupe de tête là. Puis assez rapidement, là, je me retrouve avec un groupe où il y avait deux vétérans qui avaient l'air de vraiment connaître le parcours par cœur, là. Donc là, je les suis. En plus, on était partis de nuit. Ils avaient fait un peu comme à la Barclay, là. Et c'est le directeur qui décide quand ça commence.
Ouais.
Puis il sonne dans un clairon là, pour annoncer que ça va être dans 1 heure. Puis là, c'était genre, ils ont sonné ça à 11h05 du soir, donc ça partait à minuit. Donc là, on courait d'abord plusieurs heures de nuit. Et donc là, bah, je suivais les vétérans, puis une chance là, parce que des fois, ils tournaient tout d'un coup à gauche. Pourquoi ils tournent là-dedans? Puis, ah bah ok, on arrive à un livre. Puis, hop, on a fait plusieurs livres comme ça. Puis là, arrivé le petit matin, il commence à faire jour, j'étais toujours avec eux. À un moment donné, à un livre, j'attends mon tour pour arracher la page. Puis là, il faut faire assez vite parce que eux, ils repartent, ils t'attendent pas. Donc, tu sais, là, tu arraches ta page, tu repars et tu essaies de les rattraper. Puis là, j'avais posé mes bâtons par terre pour arracher ma page et j'ai oublié mes bâtons. Donc là, je repars rapidement, j'essaie de courir pour les rattraper, j'y arrive. Mais au bout de 100, 200 mètres, tout d'un coup, je me rends compte que j'avais pas mes bâtons. Là, je fais, oh fuck! Donc là, j'étais obligé de faire demi-tour, d'aller rechercher mes bâtons. Puis là, c'était fini. Là, j'étais tout seul. Là, j'avais plus mes vétérans. Donc là, il a fallu que je sorte ma carte, puis que je commence à lire les instructions pour trouver les livres. Et en fait, je t'avouerai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir du fun.
OK.
Parce que j'ai commencé vraiment à faire ce que j'étais censé faire dans la course. À prendre mes relevés de compas, parce que dans les directions, ils me disent des fois, ben, t'arrives à tel endroit, puis là, fais genre 50 mètres vers le sud-ouest, puis tu vas arriver à un tas de pierres, puis le livre est caché là-dedans. Là. Donc, je prenais mes directions, je comptais mes pas, puis hop, j'arrivais à trouver les livres petit à petit comme ça. Et grâce à ça, ben, j'ai réussi à finir la première boucle. Dans
OK.
les temps, il me restait, je sais plus combien de temps j'avais mis, 14 heures quelque chose, donc il me restait presque 2 heures. Donc là, je me ravitaille, je repars sur la deuxième boucle. Ça allait pas mal bien encore, mais il faisait hyper chaud. Puis là, petit à petit, j'ai commencé à avoir une baisse d'énergie. J'ai commencé vraiment à me traîner. À un moment donné, j'ai quand même rattrapé un coureur qui avait l'air encore plus fatigué que moi. Puis là, il me dit, il va falloir que je m'arrête un moment de dormir. Là. Donc, je dis, ah, moi aussi, j'en peux plus. Donc là, on finit une montée qui arrivait à un col. Puis là, on s'étend dans l'air. Bon, on se donne 15 minutes de repos. Bon, en 15 minutes, j'arrive pas vraiment à dormir, mais tu sais, j'essaie de fermer les yeux. Puis hop, on se remet sur nos jambes, on repart. Puis lui, ça lui avait redonné de l'énergie. Il commence à repartir en courant. Puis moi, j'étais tout le temps aussi autant fracassé. Donc là, j'arrivais pas à le suivre, donc je laisse filer. Là, je me retrouve tout seul, la nuit tombe, je continue le parcours. Puis à un moment donné, ben, j'entame une grosse montée de nuit. Et puis, je me rappelais à l'aller, là, comment ça marchait cette montée-là. C'était des lacets sur un single track. Puis à un moment donné, on arrivait sur le chemin s'élargissait. Et c'était le dernier lacet qui amenait jusqu'à une route.
OK.
Donc là, à un moment donné, j'arrive sur ce chemin qui s'élargit. Je me dis, OK, j'y suis presque, j'arrive presque à la route. C'est parfait ça. Puis là, non, arrivé au bout de ça, il n'y a plus rien. Le sentier disparaît. Pas de route. Puis là, je me dis, fuck, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis-tu planté? Donc là, si je regarde un peu en arrière au-dessus de moi, puis je vois comme s'il y avait un tout petit micro-sentier qui continuait. Alors, tu sais, je le prends d'abord, puis c'était vraiment entre les arbres et tout. Je me rappelais pas du tout d'être passé par là. Je me dis, non, 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 c'est pas ça, tu vas te perdre là. Retourne sur tes pas. Puis retourne jusqu'au dernier single track, voir si t'as pas manqué le single track qui continuait. Donc je redescends, je reviens là, puis ben non, là, c'était vraiment le seul virage possible. Donc là, j'étais vraiment perdu. Puis la fatigue, tu sais, jouant, j'arrivais plus à réfléchir. Puis je me dis, mais je sais pas où je suis. Donc à un moment donné, j'ai presque envisagé abandonner puis redescendre. Puis là, je me suis dit, bon, va quand même pousser un peu plus le micro-sentier que tu avais vu là. Donc je retourne dans ce petit sentier, je continue. Puis finalement, il continue. Il y a de nouveau un virage et j'arrive de nouveau sur un truc qui s'élargit et c'était ça dont je m'étais rappelé. Je m'étais pas rappelé qu'il y en avait un deuxième. C'est donc là, ok, c'est bon, je suis de nouveau sur le parcours, ça va, mais tu sais, ça m'avait drainé tellement d'énergie qu'il fallait une couche. Donc là, je suis arrivé sur le bord de la route, je me suis allongé un autre 15-20 minutes. Puis là, je me relève à nouveau pour partir, toujours pas plus d'énergie. Donc là, je continue en marchant, puis il y avait encore une autre montée qui continuait. Puis là, je marchais de plus en plus lentement et je me traînais. Puis là, il me restait plus qu'un quart de gourde d'eau. Donc, j'avais genre 250 centilitres d'eau. Il n'y avait aucun point d'eau rendu où j'étais. Puis, je savais que le prochain point d'eau, il fallait que je monte tout en haut du col, que je fasse un long plat, que je redescende encore de juste. Bref, c'était vraiment loin. C'est à plusieurs heures, c'est au rythme où j'allais, plusieurs heures d'où j'étais. Et là, j'ai eu peur de manquer d'eau, de me perdre. Je me suis dit, OK, non, non, ça devient trop dangereux. Et j'ai abandonné. Bon, juste une boucle et demie, ce qui était un peu décevant, parce que je voulais au moins en refaire une deuxième, là, complète. Mais c'est pas l'orientation qui m'a fait m'arrêter, quoi.
Puis en fait, ça a été un point positif que tu aies plus les leaders puis tu oublies tes bâtons.
Ouais, exactement. Parce que là,
Parce que
j'étais vraiment
là, tu as
entraîné.
vraiment pratiqué tes skills, tu as eu plus de
Ouais.
plaisir.
Ouais.
Super. Bon, ben, c'est vraiment excellent, ça. Puis, parler de ta saison là, actuelle. Puis, mais avant de parler de ta saison actuelle, il y a tellement de choses. On pourrait faire un épisode de 4 heures facilement avec toi, Cédric, là. Écoute, ta première course de 100 000, ça a été quoi exactement?
Ça a été l'UTMB.
OK.
Je n'ai pas choisi la plus facile, mais
Mais tu avais eu l'expérience de faire la CCC avant.
ouais, je
OK.
l'avais choisi parce que en fait c'était symbolique pour moi.
Ouais.
Quand j'étais plus jeune, j'avais trois bons amis. J'habitais en fait à la montagne, là dans les Alpes.
OK.
Puis là où j'habitais, j'avais une vue sur le Mont Blanc au loin qui était quand même devant moi là.
OK.
Et donc j'avais trois amis là dont celui avec qui je courais là dont je te parlais plus un autre. Puis
OK.
on s'était dit ben le jour où on se marie, on se fait comme enterrement de vie de garçon, une ascension du Mont Blanc. On avait eu ça.
OK.
Puis là ben on s'est tous on avait tous les plans de se marier quasiment dans la même année là. Donc on aurait voulu faire ça, sauf que là mon ami avec qui je cours là, il a attrapé un cancer. Donc
Oh.
il a dû faire de la chimio et tout ça, puis il n'était pas en état de monter le Mont Blanc. Donc finalement on ne l'a pas fait. Du coup ça avait toujours été resté comme un challenge que j'avais pas fait là, cette ascension du Mont Blanc. Sauf qu'après, une fois que j'ai eu des enfants, bah, je trouvais que c'était un peu trop dangereux, là, parce que t'as beau y aller avec des guides, ça arrive des fois là qu'il y a des morts, là, puis
Ouais.
je voulais pas risquer ça ayant des enfants. Et quand j'ai appris l'existence des ultra trails, j'ai appris qu'il y en avait un qui faisait tout le tour du Mont Blanc. Puis là, je me suis dit, ok, ça va être ça mon challenge qui va remplacer l'ascension du Mont Blanc. Ça va être d'en faire le tour complet. Donc là, j'ai regardé ce que ça prenait pour s'inscrire à l'UTMB. Puis il fallait des points ITRA.
Ouais.
Puis à l'époque où je voulais m'inscrire, là, ça prenait 9 points. Et j'avais donc le choix de faire trois courses de 100 km qui rapportaient chacune 3 points. Donc j'ai planifié ça, je me suis dit, ben, cette année, j'en fais deux. Et puis l'année. Attends, comment ça marchait? Ouais, Ah non, c'est ça. La première année où j'y réfléchis, je me dis, j'en fais une. L'année prochaine, j'en fais deux. Là, j'aurai mes trois courses, puis je pourrai m'inscrire.
Ouais.
Ma première de 100 kilos, ça a été le Trail des Templiers en France, qui est une des toutes premières courses de trail, d'ultra trail là, qui a existé.
Ouais.
Donc, j'ai fait celle-là. Ah, puis d'ailleurs, pour la petite histoire, elle aussi, je l'ai faite avec mon fameux ami.
Ah ouais?
Ouais. Et puis, on a tous les deux eu une tendinite au genou pendant la course. Ce qui fait qu'on a fini, moi j'ai genre fait les derniers 25 km en me servant de mes bâtons comme béquille quasiment là, avec un genou qui fonctionnait plus. Mais on s'est quand même rendu au bout parce qu'on voulait la terminer. Mais après ça, on s'est dit tous les deux, plus jamais ça. On avait trop souffert. Mais là, tu sais, comme d'habitude, quelques jours après, j'ai commencé à me dire, ouais, mais en fait,
Mon
cette
corps récupère
blessure-là.
bien, ça me tente encore.
Non, c'était pas vraiment ça. C'était qu'en fait, cette blessure au genou, je me l'étais faite pendant l'été en m'entraînant justement pour cette course.
Ah,
Et il y avait peu assez de temps pour qu'elle soit complètement guérie. Ce qui fait qu'elle
OK.
était réapparue pendant la course. Là,
Ouais.
je me suis dit, ok, j'aimerais bien quand même juste savoir si est-ce que mon corps n'est juste pas fait pour ces distances, puis à chaque fois que j'en ferai, je me blesserai, ou est-ce que c'était juste parce que je m'étais blessé avant. Donc là, c'est je me suis laissé tout l'hiver pour bien guérir de la blessure. Puis je m'étais inscrit un autre 100 kilos qui avait lieu dans le parc Gaspésie l'été suivant. Et je me suis dit, si à celle-là, je me refais mal à nouveau, je ne fais plus jamais cette distance-là. Mais si ça se passe bien, ben je continue. Donc
Okay.
c'est ce qui s'est passé. J'ai fait le 100 kilos dans le parc. Ça a bien été, je ne me suis pas blessé. Donc après, je me suis inscrit. Ah non, je m'étais inscrit déjà à la CCC. Donc j'ai continué avec la CCC. Et ça a bien été aussi. Ça m'a permis de faire la reconnaissance de la moitié du parcours de l'UTMB. Puis là, j'avais mes 9 points. Donc, je me suis inscrit au courant de Noël là, pour l'UTMB. Puis, j'ai eu la chance d'être pris tout de suite. Ce qui fait que l'année
Okay.
d'après, je me suis enligné sur l'UTMB. Et c'est vraiment une bonne chose là, qui demandait ces points. Parce que même avec trois courses de 100 kilos, puis j'en ai même refait une l'année du TMB pendant l'été. J'ai refait une deuxième fois celle du Parc de la Gaspésie pour m'entraîner. Donc même avec quatre courses de 100 kilos, je suis vraiment arrivé au bout du TMB à bout de mes forces. J'ai trouvé que c'était le step entre 100 kilos puis 160. J'ai fait le parallèle un peu entre, pour les coureurs de route, là, entre le demi-marathon puis le marathon. En gros, sur un demi, tu peux courir à fond puis tu n'auras pas de mur. Mais quand tu passes sur marathon, là, souvent, tu pognes le fameux mur là, à 30 ou plus kilos, là. Ben là, sur un 160, c'était pareil, là, t'sais, j'avais des creux avant d'arriver à 100, là, mais rien de bien méchant. Puis là, arrivé à 120 kilos, un creux que j'avais jamais vécu, j'étais complètement down, j'avançais plus. Puis là, je savais qu'il me restait encore 40 kilos avec trois grosses montées à faire. Puis pour moi, c'était genre impossible. Je fais, mais comment je vais me rendre au bout de ça? Puis, je me rappelle, il y avait mes parents qui me suivaient autour, puis ma mère qui me voit là, puis elle voit mon état là, puis je vois sa face qui devient anxieuse. Là. Puis là, elle me dit, c'est dur. Je fais, ah, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Là. Puis là, tu sais, je prends un moment à me ravitailler, l'énergie revient un petit peu, puis là, je me dis, ok, t'oublies l'arrivée, c'est encore trop loin. Mais essaye de te donner des défis intermédiaires. Essaye de te faire chacune des petites bosses, là, des montagnes qu'il y a avant l'arrivée. Donc là, je repars, je fais la première, j'arrive en bas de celle-là. Bon, finalement, je peux continuer là. Je repars, je fais la deuxième, j'arrive en bas. Fatigué, t'sais, je prends encore une bonne pause. J'essaye de dormir un peu. Je m'allonge sur un banc, puis finalement, le sommeil ne venait pas là, donc t'sais, je repars. Puis là, il restait la dernière bosse à faire. Puis là, j'ai commencé à avoir mes premières hallucinations. C'était la première fois que j'hallucinais, mais c'était drôle. Donc, je marchais dans un sentier, puis il n'y avait aucune chance que je voie ma famille ou quoi. Puis là, je commence à voir sur le bord du chemin, pourtant c'était de nuit avec ma frontale, je vois ma mère qui m'attendait sur le bord du sentier. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Tu sais, c'est super loin de n'importe quelle route, c'est quand même bizarre qu'elle soit venue m'encourager ici. Puis là, en m'approchant, en fait, non, c'était des plantes, là, tu sais, j'avais vu genre des grosses fougères ou quoi, je croyais que c'était ma mère. Après ça, j'arrive vraiment à la partie la plus raide qui monte à Tête-au-Vent. Et là, j'avais besoin d'énergie, là, donc j'avais besoin de prendre, j'avais pas des gels, là, mais des compotes de fruits sur moi. Et là, j'ai commencé à croire que j'étais avec quelqu'un d'autre. Là, je me parlais à moi-même comme si j'étais quelqu'un d'autre, puis je me dis, bon. Passe-moi tes bâtons, je vais les tenir pendant que tu prends ta compote. Tu veux quelle saveur, banane ou fruit de la passion? Puis tu sais, là je réfléchis, je fais, mais à qui je parle là? Je suis tout seul là. C'est vraiment hilarant. Puis finalement, tu sais, je me suis rendu en haut, puis arrivé au dernier ravito, là, il restait plus que 7 kilos, mais j'étais de nouveau tellement mort. En plus, je commençais à sentir comme une espèce de gêne dans la poitrine. Je me suis dit, oula, il faut plus que tu fasses monter le cardio, il faut vraiment que tu dormes. Donc là, je m'allonge dans une chaise longue, puis je dis aux bénévoles de me réveiller dans 15 minutes. Et là, je me suis senti vraiment partir dans le sommeil. C'était comme si je tombais en arrière, mais à chaque fois que je tombais, je tressautais, puis je restais réveillé. Donc au bout de 4-5 fois comme ça, là, au bout de 5 minutes, je me suis dit, ok, j'arrive à toujours pas dormir. Donc tant pis, relève-toi, puis finis en marchant, là. Puis j'ai fini toute la fin en marchant. Mais je suis arrivé au bout quand même, là. Mais c'était quelque chose.
Ouais, fait que c'est quand même une course marquante pas mal dans ton parcours, là. Super. Excellent. Puis sinon, là, pour parler des 100 miles, tu as eu la chance de faire la Western State aussi?
Ça, j'ai vraiment été super chanceux à la loterie.
Puis, un des. Ben, je pense que l'UTMB et la Western State, c'est pas mal les 200 miles les plus mythiques, là.
Ouais, c'est vrai. La Western States étant le premier 100 000 à avoir jamais existé, là, c'est vraiment ça qui a
Exactement,
annoncé
ouais.
ces courses. Donc là, c'est ça, tu sais, c'était mythique, là, j'en avais lu dans Born to Run, je voulais la faire. Puis là, je savais que c'était une loterie, donc je me dis, ben, faut commencer à s'inscrire, là, puis on verra, tu sais, ça va sûrement pas être cette année. Donc là, je m'inscris. Puis le jour des inscriptions, j'étais en train de faire justement une petite rando-course pas loin de chez moi. Puis, à un moment donné, j'avais plein de messages qui popaient sur mon téléphone. Puis il y avait des amis qui me disaient, waouh, t'as été pris à la Western States. Et je regarde ça, j'y croyais pas. Là, je fais, hein? Après, j'ai regardé parmi les premiers, ceux qui s'inscrivaient pour la première année comme moi, parmi ceux qui avaient été pris, j'avais 1,5% de chance d'être pris. Puis c'était tombé sur moi, là. Vraiment lucky.
Super,
Donc,
puis Ça s'est bien passé. Comment c'est passé? Parce que beaucoup. Tu sais, t'as fait l'UTMB avant. J'imagine que ça a dû te préparer quand même.
Ouais, bah j'en avais fait trois avant la Western State.
OK.
Donc j'avais fait l'UTMB, ça c'était en 2016. L'année suivante, j'ai fait. C'est la seule année où il y a eu un 100 000 à travers le parc de la Gaspésie. Ça s'appelait
Oui.
la Grande Traversée. Donc
Ouais.
là, j'ai fait celle-là. Puis d'ailleurs, je l'avais fini deuxième derrière Cochon. Ça avait été
OK.
une super belle course. L'année d'après, j'ai fait la Diagonale des Fous, qui était pour moi la course la plus dure qui existait. Puis testé là-dessus.
Qui vient juste avant d'avoir lieu récemment,
Ouais,
là.
ouais, ouais. Puis effectivement, c'était la plus difficile au niveau technique que j'ai faite.
Ouais, qui est souvent les temps les plus longs pour un 100 mètres, là.
Ouais. Bah finalement, je l'ai faite en à peu près 1 heure de moins que l'UTMB, mais tu sais, j'avais pris de l'expérience depuis
Ouais,
l'UTMB. Hein.
ouais,
Et
ouais,
c'est aussi les plus beaux paysages que j'ai vus, là. Et fabuleux, cette course.
ouais, ouais.
Donc c'est ça. Puis bah, après ça, voilà, j'étais rendu à la Western States en 2019.
OK. Qui est une course quand même difficile parce que plus de dénivelé négatif et la chaleur. La
Ouais.
chaleur, c'est un coup de dé, là.
Ouais. Et le cut-off me paraissait serré. 30 heures. De
Ouais.
tous les 100 000 que j'avais fait, j'en avais fait aucun en dessous de 30 heures. Celui où je m'étais le plus rapproché, c'était la traversée du parc Gaspésie. Je crois que je l'avais fait en 30 heures et 30 minutes.
OK.
Donc là, je me disais, merde, c'est challengeant. Là, j'ai jamais fait ça en dessous de 30. Il va falloir le faire en dessous de 30. Mais après, en regardant d'après mon niveau, puis les temps des gens, je me disais, bah, t'es peut-être même capable de le faire en dessous de 24.
Ouais.
Puis, ceux qui le font en dessous de 24, ils ont une boucle de ceinture en argent. Alors ceux qui le
Oui.
font entre 24 et 30, elle est en bronze, je crois, ou quelque chose comme ça.
Exact, ouais.
Donc là, je rêvais, tu sais, secrètement de cette boucle en argent, hein, mais je ne savais pas du tout si j'en étais capable. Et cette année-là, j'étais allé prendre des vacances dans les Alpes, début juin. J'avais fait beaucoup de D+. Puis là, après ça, je m'étais inscrit au Gaspésia 100, mais on faisait le 100 000 en relais avec des amis. Puis moi, je faisais juste un tronçon de 54 km. Je m'étais dit, bah, ce sera
OK.
ma dernière grosse sortie avant la Western States. Puis là, t'es full en forme. J'ai couru le 54 à fond la caisse. Et ça s'était bien passé pendant la course et j'avais eu aucune douleur. Mais là, le lendemain, je me réveille, fasciite sous le pied.
Oh.
Je m'étais fait ça pendant le 54. Là, j'étais dégoûté. Putain, t'sais, j'ai 2 semaines avant la Western States.
Lee.
Ouais. Donc là, je fais plus rien. J'espère que ça passe. Je me masse, etc. Puis finalement, j'arrive sur les lieux de la Western State un petit peu avant. La veille, il y avait genre, on pouvait faire une reconnaissance de la première montée. Donc là, je fais ça avec d'autres coureurs. Puis là, t'sais, juste en marchant, là, je sentais mon pied qui tirait. Donc ça, c'était un peu poche, là. Ce qui fait que j'ai pas dormi de la nuit, là, je stressais, je me disais, est-ce que je vais me rendre au bout de cette course ou pas? Donc en fait, j'ai décidé de la faire mollo, surtout en montée, de ne pas pousser en montée, puis d'essayer de bien rouler dans les descentes. Et en fait, du coup, ça a super bien été, parce que j'ai eu de l'énergie vraiment, vraiment jusqu'à loin dans la course.
OK.
C'est juste vers la fin, à un moment donné, sur un long plat, là, que j'ai eu mon premier down.
C'est les canyons souvent qui deviennent difficiles là,
Ben dans
après.
les canyons, ça allait full bien.
Ouais, OK.
Ouais. En fait, en montée, c'est que je faisais juste marcher sans pousser. Donc là, il y a les autres coureurs qui étaient après à mon niveau qui me dépassaient. Puis dans les descentes, je me laissais rouler. Là, je redépassais tout le monde.
OK.
Et au bout de 2-3 de montée-descente comme ça, ben, en fait, ceux avec qui je roulais, ben, ils étaient en arrière. J'étais même en devant d'eux. Et c'est après la rivière, après traverser la rivière, j'ai eu mon premier creux. Mais
OK.
finalement, il est passé. Puis la toute dernière montée, là, je ne sais pas si c'est passé. J'étais quand même fatigué, tu sais, j'avançais, il y avait des coureurs qui me rattrapaient en arrière, qui me dépassent. Puis là, tout d'un coup, je continue à courir. Puis eux, je voyais qu'ils s'étaient mis à marcher parce que c'était la pente montée. Puis moi, je n'étais pas essoufflé, tu sais, je continue à courir, je les redépasse. Puis là, j'avais une énergie qui sortait de je ne sais pas où. Tout d'un coup, ça se met à monter en lacet. Donc là, je me mets à marcher aussi, mais je marchais super vite. Je me mets à doubler plein de coureurs dans la montée. Il y en a un qui essaie de me suivre. Je l'entendais souffler derrière moi. Au bout d'un moment, il a lâché, il a pas réussi. Puis moi, j'étais bien. J'ai vraiment fini en force, là, avec une espèce d'énergie qui sortait de je sais pas où. Et donc, finalement, je l'ai rentré en 22h40. J'ai réussi à faire en dessous des 24 heures. J'étais vraiment content.
Oui, félicitations, c'est tout un exploit. Super! Puis, sinon, des ultras, je pense que que tu es le plus fier. T'as Gaspésie, là, que j'avais pris en note. Est-ce que c'est celle-là que tu as parlé, qui était ton préparatoire de la Western State un an avant?
Non, c'était. Bah, j'avais fait le 54 pour me préparer à la Western State.
Ah, ok, oui, c'est ça. Ok, parfait.
Ouais. Le 100 000, il ne me tentait pas parce que je me disais, oh, ça ne me tente pas de faire tu sais, un aller-retour, aller à nouveau sur le parcours, là. Mais finalement, comme entre-temps, tu sais, j'avais la Barclay Marathons en tête, je me disais, ouais, bah, la Barclay, c'est 5 boucles. Tu t'habitues à faire des trucs où tu répètes plusieurs fois la même chose. Donc là, je me suis dit, ok, bah, je vais m'essayer sur le Gaspésia 100, hein. Donc ça, c'était l'année dernière. C'était mon 100 000 de l'année. Je me suis inscrit à ça. Puis, j'avais, tu sais, aucune... Je cherchais pas du tout à gagner ou quoi que ce soit. Là, je voulais juste le faire en ayant du plaisir. Puis, quand même, du mieux que je pouvais, mais sans pousser trop dès le début, là. Donc là, je me rappelle, on part, tu sais, je laisse passer les coureurs rapides devant. Puis assez rapidement, je me retrouve avec un autre coureur, ah son nom m'échappe, avec qui j'avais déjà couru. Puis il avait décidé de courir avec moi là, donc on courait ensemble. Mais à un moment donné, tu sais, il commençait à accélérer le pas, donc je lui ai dit ben, tu sais, vas-y, moi ça va trop vite pour moi. En plus, je commençais à cramper assez tôt dans le parcours là, ça faisait juste 3-4 heures qu'on courait, puis je commençais à sentir des crampes. Je me suis dit ouh là là, ça va pas très bien aujourd'hui, tu sais, il faut vraiment que tu ailles mollo. Donc j'ai encore ralenti. Puis là, je cours tout seul dans mon coin. Lui, il était parti en avant. Puis finalement, arrivé au premier 54 kilos, là, je le rattrape au ravito. Il était déjà en train de manger, tu sais, donc je m'arrête. Je me mets à manger avec lui. On repart ensemble. Puis là, finalement, là, ce coup-ci, c'était lui qui était un peu trop lent. Donc il me laisse filer là. Puis moi, je continue à mon rythme tout seul. Puis là, petit à petit, sur l'autre chemin, je rattrape le troisième coureur, puis le deuxième, juste avant d'arriver au ravito du 104 km. Puis, mais le premier, là, il était vraiment loin, là, je ne pensais pas le rattraper. Puis là, je me ravitaille à nouveau, je repars dans la nuit sur le dernier tronçon, et finalement, avant d'arriver à Coin du Banc, je rattrape le premier de la course, qui avançait plus du tout, parce qu'il avait une énorme ampoule sous le pied, et il m'a dit, oh, je suis trop mal, je peux plus continuer, là, donc il a arrêté là. Donc là, je me suis retrouvé en tête de la course. Puis ça allait tellement bien, j'ai continué au même rythme. Sauf qu'à un moment, rendu vraiment pas loin de la fin, là, j'ai commencé la fatigue, mais mentale, a commencé à me rattraper. Et j'ai fait une erreur, mais j'hallucine encore d'avoir fait ça. C'était un passage, il y avait un petit ruisseau, puis le chemin passait normalement sur un bout de bois qui était en travers au-dessus du ruisseau. Mais sauf que c'était un petit peu casse-gueule, donc. Je me rappelais l'avoir fait, puis m'être dit, ok, la prochaine fois que tu passes là, tu prends pas le bout de bois, tu passes en dessous à pied, parce que la rivière, elle est vraiment pas grosse, comme ça, tu risques pas de tomber. Donc là, j'arrive à cet endroit-là, je descendais, je vois la rivière, puis là, au lieu de prendre le tronc d'arbre, je traverse dans la rivière, je passe de l'autre côté, puis là, j'arrive de l'autre côté du tronc d'arbre, et je sais pas pourquoi, je repasse sur le tronc d'arbre. Donc, tu sais, je fais littéralement demi-tour, je reviens en arrière. Puis je me remets à monter ce que je venais de descendre, mais en croyant que j'allais toujours dans la bonne direction. Puis là, je croise une fille que j'avais dépassée. Non, elle, je la reconnaissais pas. Je croise une fille, puis je me demande pourquoi elle est dans cette direction. Puis je me dis, bon, peut-être que c'est une autre course. Il y avait plusieurs distances là. C'est une autre course où ils partent dans ce sens-là. C'est pas très grave. Puis là, peu après, je croise un gars, et lui, par contre, je me rappelais de l'avoir dépassé. Puis là, il me dit, mais pourquoi tu vas dans ce sens-là? Je lui dis, ben. Je vais vers l'arrivée là. Il me dit non, c'est dans l'autre sens. Hein? Puis là, je commence à réfléchir. Puis là, ça me revient en tête la traversée de la rivière, puis le fait que j'avais repris le tronc d'arbre. Et là, j'ai compris mon erreur. J'étais en tabarnak. Parce que je ne savais pas où étaient les autres derrière moi. Je ne voulais pas qu'ils me rattrapent. Là, je fais putain, tu viens de perdre du temps, de l'énergie. T'es vraiment trop con. Ça m'a vraiment refouetté. Je me suis remis à courir super vite. Puis j'ai eu cette énergie-là jusqu'à la dernière montée du Mont-Sainte-Anne. Où là, j'ai eu mon premier coup de mou de la course. Et tu sais, je l'ai quand même fini en courant quasiment jusqu'au bout, là. Et j'étais proche, j'étais juste au-dessus de 24 heures. Si j'avais pas fait mon erreur, j'aurais été en dessous des 24 heures.
Mais c'est vraiment impressionnant. Super, ça. Écoute, question là, avant de rentrer dans la backyard, parce que tu sais, il y a beaucoup à parler de backyard, là, mais
Ouais.
ça, Toi, tu es devenu avec le fil du temps un coureur assez compétitif, tu as des bons positionnements, des bons classements, particulièrement cette année. Puis selon toi, là, c'est quoi que ça prend, quelle qualité que ça prend pour un athlète pour devenir compétitif en ultramarathon de longue distance?
Ouais. Alors, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, surtout dans les courses de longue distance.
Mais disons qu'on parlera pas de Barclay parce que c'est comme vraiment une classe à part la Barclay, là.
Ouais. Mais disons que, tu sais, bon, il y a donc un des paramètres, évidemment, c'est la vitesse, là. Puis, tu
Ouais.
sais, je suis pas des plus rapides. Mais en même temps, je ne suis pas des plus lents non plus. Là, tu sais, meilleur marathon, c'est 2h56, là, donc c'est quand même assez honorable, là, même
C'est
s'il y en
très
a des
respectable,
bien plus rapides que ça.
là. Ouais.
Donc, je pense qu'il faut un minimum de vitesse quand même, là. Et
Ouais.
ça se travaille avec les intervalles. Mon tout premier marathon en Honolulu, là, je l'avais fait en 3h56. Tu sais, j'étais
OK.
vraiment des temps ordinaires, là. Mais j'avais jamais fait d'intervalle ni quoi que ce soit à ce moment-là. Puis,
Ouais.
arrivé à Rimouski, là, je me suis mis à en faire avec le club. Puis, ça a vraiment amélioré ma vitesse, là. Donc, il y a cet
OK.
aspect. Après, ben, il faut de l'endurance. Là, il faut pouvoir durer, tenir longtemps, longtemps. Donc, il faut s'habituer à faire du volume, puis à faire des longues sorties de temps en temps, là. Moi,
Ouais.
j'aime le concept des week-end shocks.
Ouais.
Genre,
Clairement, tu prépares beaucoup pour les longs ultras, là.
ouais, j'ai 3 enfants, là, mais que je les ai 1 semaine sur 2. Donc, souvent, ben, le week-end où je ne les ai pas, c'est là où je profite pour courir beaucoup, là.
OK.
Puis bah après ça, il y a la nutrition. Puis là, j'ai une chance incroyable. Je pense que ça, c'est une de mes forces. C'est d'avoir un estomac à toute épreuve. Là, j'ai
Ouais.
jamais envie de vomir, jamais écœuré à manger. J'ai tout le temps
OK.
faim. Donc
Ah
là, j'arrive
ouais.
tout le temps à manger, à me ravitailler et à pas manquer d'énergie grâce à ça.
OK. Puis, est-ce que, ben, c'est sûr que tu dois alterner sucré-salé, là, tu dois. T'as-tu
Ouais.
une recette de prédilection? Ou ça dépend, tu dois être quand même adaptatif selon les paramètres de la
Ouais,
course?
non, j'ai pas vraiment de recette. Avant ça, j'essayais de prendre, genre, je sais pas, un gel ou une barre à toutes les demi-heures.
Ouais.
Puis récemment, ma copine, elle a suivi un truc de nutrition pour sportifs. Puis là, il disait que on pouvait essayer de maximiser jusqu'à 120 grammes de glucides à l'heure. Donc là, c'était genre, tu sais, 4 gels à l'heure,
Ouais,
plus
ouais, ouais.
apport par le liquide. J'ai essayé de faire ça, mais là c'était trop. Là, ça m'a un peu
Ah, ouais.
écœuré pour la première fois. Non. Donc, je suis
OK.
revenu à moins. Pour moi, une à toutes les demi-heures, c'est suffisant.
Ouais.
Puis là, même récemment, là, au championnat de backyard, vu que là on va très lentement, je l'ai même fait sans prendre quasiment aucun gel. Là, je faisais juste manger
Plus
entre les deux.
solide.
Plus solide, là, ouais, c'était vraiment des vrais repas la plupart du temps. Hein. Et j'ai tourné là-dessus pendant 40 heures.
OK. Excellent. Super, ça. Puis, bon, ben écoute, parlant de backyard, pourquoi la backyard? Qu'est-ce qui t'a attiré de ce concept-là?
Je pense, alors attends, c'est la première fois, oui, c'est ça. Évidemment, c'est comme j'étais intéressé à la Barclay Marathon, j'avais regardé comment on pouvait réussir à avoir une place. Puis j'avais vu qu'il y avait deux courses qui nous permettaient de faire ça. Donc, un, la BFC, et l'autre, c'était la Bacchia, la Big Dog de Laz. Mais quand j'ai
Ouais,
vu le concept de courir cette distance, la 6,7 km, à chaque heure, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui tienne debout, je me suis dit d'abord, c'est genre, ah, quelle horreur, jamais je veux faire ça.
okay.
Et donc, j'ai fait, bah, moi, tu sais, ça va être la BFC ou rien. Là. Donc, j'étais parti pour essayer de m'inscrire à la BFC. Puis, donc, la backyard, dans ma tête, ça m'attirait pas. Puis, finalement, c'est quand il y a eu vent qu'il allait avoir une backyard organisée à Rivière-du-Loup, tout près de chez moi,
Ouais.
que je me suis dit, ben, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Là, tu sais, en tant que coureur d'ultra, je pense qu'on recherche souvent où est nos limites. C'est pour ça qu'on pousse tout le temps les distances, qu'on essaie de voir jusqu'où on est capable d'aller. Puis là, jusqu'à maintenant, tu sais, tous les 100 000 que j'avais faits, je les avais terminés. Donc, je n'avais pas trouvé ma fameuse limite. Là, je m'étais dit, ben, ce format-là, c'est l'occasion de la trouver, cette limite-là. Donc, je pense que c'est ça qui m'attirait. Donc, l'édition devait avoir lieu en 2020, je crois. Donc, je m'étais entraîné, j'avais fait quelques tests avant l'édition qui devait avoir lieu en juillet. Finalement, à cause de la Covid, elle avait été repoussée à septembre. Donc, j'avais continué à m'entraîner pendant l'été. Puis là, finalement, au lieu d'être une édition en présence, ben, ils avaient transformé ça comme une sorte d'édition virtuelle où chacun pouvait faire sa backyard dans son coin. Là, puis ça allait être une compétition à distance comme ça. Donc là, je m'étais dit, ben, je ne me suis pas entraîné pour rien, je vais la faire. Donc je m'étais trouvé un parcours de 6,7 km à Sainte-Luce, là, près de Rimouski. Et puis, à l'époque, j'avais aucune idée des difficultés d'une backyard. Donc, dans ma tête, je me suis dit, tu sais, je m'étais dit, j'ai couru presque 40 heures, la plus longue course UTMB, c'était 39 heures. Donc, tu sais, je devrais être capable, en ayant des pauses à chaque heure, en n'allant pas vite, puis y a pas de dénivelé, de faire au moins cette durée-là. Donc, mon premier objectif, c'était genre 40 heures. Puis après, je me disais, ben, ensuite, je voudrais prouver à l'AS que je suis capable de tenir les 60 heures, qui est le temps limite pour la Barclay Marathon. Donc, j'imaginais que j'étais peut-être capable de faire 60 heures. Et donc là, 60 heures, l'édition virtuelle devait démarrer un samedi matin. 60 heures, ça me menait jusqu'à un lundi soir. Je voulais pas aller jusque-là parce que je travaillais. Donc je m'étais dit, ben, je vais la commencer le vendredi midi. C'est en avance. Tant pis, je ne courrais pas avec les autres, mais je m'en fous, je fais ça pour moi. Donc là, j'avais fait ça. Là, j'avais commencé vendredi à midi. Puis finalement, j'avais chopé un rhume un petit peu avant. Puis là, au bout de 17 heures, j'en pouvais déjà plus. Et j'ai continué de peine et de misère jusqu'à 23 heures. Puis là, je ne pouvais vraiment plus courir. Et j'ai fait une dernière boucle en marchant, donc là, dans laquelle j'ai mis plus d'une heure, pour faire le fameux 24 qui fait 100 000, là. Et c'était tout, là. C'était ma première expérience backyard. J'ai même pas été capable de faire 24 heures. Donc là, j'étais déçu. Puis finalement, courir 24 heures sur l'asphalte comme ça, là, j'avais pas tant aimé ça à la fin de l'expérience. Je trouvais ça très lassant. Et je me suis dit, oh non, les backyards, plus jamais, c'est de la merde. J'aime pas ça, c'est pas pour moi. Donc là, Yvan réorganise une backyard, cette fois-ci en présentiel pour l'année suivante, donc 2021, l'année dernière. Et là, je ne m'étais pas inscrit. Puis j'avais même. On avait prévu avec ma blonde de se faire une semaine de rando-course sur le sentier international des Appalaches, depuis là où ça commence au Québec, dans le sud, là. Comment ça s'appelle là? Le secteur d'Avignon et jusqu'au début de la réserve faunique de Matane. Et ça tombait la semaine juste avant la backyard, mais que j'avais pas prévu de faire. T'sais. Donc voilà, on prévoit notre truc avec ma blonde. Puis là, finalement, ils envoient un courriel. Je sais pas si c'était les inscriptions, si c'était genre des nouvelles places qui s'étaient libérées. Yvan m'envoie un courriel au mois de juin, là où c'est très proche de la course. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ça me titille, puis je me dis, ah, j'aimerais quand même en faire une, ah, en vrai, là, tu sais, avec d'autres gens, plutôt que tout seul dans mon coin, là. Donc, je regarde un peu le timing, je fais, putain, c'est juste après le SIA. Puis là, je me dis, j'ai un jour de repos, j'ai le temps de préparer mes affaires, ça se fait. Allez, ok, puis je m'inscris. Donc là, je m'inscris à ça. Puis, tu sais, j'avais aucune attente, là, j'allais pas faire un super taper, là, j'allais marcher, courir pendant une semaine, j'avais un jour de repos, puis aller faire ça, c'était vraiment pour l'expérience. Donc là, on fait le SI avec ma blonde. En plus de ça, dès la première journée, je commence à avoir une douleur au genou, parce qu'on courait avec des sacs quand même de 25 livres. Donc, c'est on marchait en montée, mais on essayait de courir dans les descentes ou les plats. Puis là, c'est mal au genou dès la première journée. Bon, ça disparaît les autres jours. Je fais toute la semaine comme ça. Puis une journée de repos. Puis là, on commence la backyard le samedi matin. Puis ça allait bien. Je cours, la nuit passe, tout va bien. J'arrive aux 24 heures, super, toujours en forme. Je fais OK, ça se passe bien mieux que ce que j'avais fait à l'automne d'avant, là. Et là, je continue, on arrive à 30 heures, il commence à plus y avoir beaucoup de coureurs. Puis finalement, je me retrouve tout seul avec Eric Déhaye. Je me dis, mais c'est incroyable, je pensais vraiment pas du tout me rendre jusqu'à la deuxième de cette course-là. Puis là, par contre, sur le 32e tour, je commence à sentir une douleur à mon genou.
OK.
Donc là, je le tape. Du coup, ça va mieux sur le 33e tour. Puis le 34e tour, ça recommence à faire mal. Puis tu sais, c'était vraiment une douleur aiguë, là. C'était pas juste un petit truc. Là, je me dis, je suis en train de me blesser. Puis j'étais inscrit à la BFC, qui avait lieu 2 mois après. Puis là, je voulais performer à la BFC. Donc je me dis, il est hors de question que je me blesse, puis que je puisse pas m'entraîner. Donc là, je me dis, ok, ben, je vais m'arrêter. Tu sais, je vais peut-être pousser encore 2 tours pour faire 36, ça fasse 150 000, puis je m'arrêterai là. Puis là, je reviens de ma boucle, Eric, il était tout le temps en avant de moi. Là, je reviens de ma boucle, hein, j'avais pris cette décision. Puis là, je vois Eric qui marche, 100 ou 200 mètres de moi. Et là, je me dis, hein, est-ce qu'il est en train de craquer ou quoi? Là, je me dis, il est en train de craquer, ça va changer mes plans, voilà. Donc, je le rattrape, j'arrive à son niveau. Puis en fait, non, il voulait juste jaser avec moi. Puis il me dit, parce que juste avant ça, lui, il s'était entraîné pour faire 50 boucles. Puis tu sais, il n'arrêtait pas de dire, plus que 18 boucles, plus que 17. Puis à un moment donné, quand il dit plus que 17, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu vas t'arrêter à 50? Il dit, oh, ben rendu là, ouais, ça fera assez long. Puis tu sais, je lui lance comme boutade, bon, ben je vais essayer de te faire jusque-là. Donc là, tu sais, on repart. Puis là, finalement, il a dû se dire, ben, il est peut-être capable de tenir jusque-là. Donc, il m'attendait pour me demander, il me dit, bon, si tu veux vraiment tenir jusqu'à 50, je vais commencer à changer ma stratégie de course, puis à courir un peu moins vite. Je vais courir avec toi là pour pouvoir tenir au-delà de ça. Donc là, je me suis dit, bon, d'accord, il n'est pas du tout en train de craquer. Il est juste en train de changer de stratégie. Donc là, tu sais, j'ai repris ma décision, puis je lui ai dit, ok, t'inquiète pas, là, moi j'ai mal au genou, je continue encore debout, puis je m'arrête. Puis là, tu sais, on revient au camp de base. Je dis ça à ma blonde. Puis là, elle me dit, mais pourquoi tu veux continuer debout? Tu risques de te blesser là. Ça te fait quoi d'avoir debout de plus? On s'en fout là. Puis tu sais, je lui dis, bah, t'as bien raison. Donc finalement, j'ai laissé tomber à 34. Là, je suis pas reparti.
Qui est quand même une très grande distance à 200 km, c'est ça?
Ouais, ça faisait 230 km, quelque chose comme ça.
OK.
Ouais.
Ouais, c'est tout un exploit pour une vraie première expérience en personne, parce qu'on s'entend quand, tu sais, en virtuel, c'est vraiment loin d'être la même expérience, là.
Ouais. Mais encore une fois, je sais pas si on revient. Je pense que tu sais, j'avais eu beaucoup de fun tout le long de la course où il y avait d'autres coureurs, où j'avais des coureurs avec qui jaser sur le parcours. Mais les dernières boucles, je m'étais retrouvé tout seul, puis Eric était toujours en avant. J'avais commencé à trouver ça chiant, là, tu sais, puis je me voyais pas encore essayer de courir comme ça pendant des heures et des heures.
Puis t'as de la
Donc
fatigue qui s'accumule, ton objectif de l'année aussi auquel tu penses qui est tout le temps là.
ouais. Puis tu sais, c'est un parcours qui est plat. Moi, je suis un coureur trail, donc je n'avais pas tant tripé que ça. Je m'étais dit, ben, tu sais, je suis content d'avoir fait l'expérience, mais j'en referai pas, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, les inscriptions auraient où? Je m'inscris pas pantoute, là. Je me prévois plein d'autres choses, dont de refaire à nouveau la BFC. Et puis, ben, cette année, de nouveau, rebelote. Il envoie un courriel. Ah non, 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 cette fois-ci, c'était pas un courriel. En fait, ça me trottait dans la tête toute l'année. Je me disais, parce que je me disais, je ne suis pas allé au bout de moi-même. J'ai arrêté parce que j'avais mal, mais j'avais encore l'énergie. Puis, pour moi, l'attrait de la backyard, c'était d'aller chercher sa limite. Et je me suis dit, Chris, c'est pas ce que tu as fait, t'as pas trouvé ta limite. Faudrait que tu en refasses une pour vraiment aller au bout de toi. Donc là, finalement, ça me trottait tellement dans la tête que je me suis dit, il faut que je la fasse. Donc là, j'ai écrit à Yvan, je lui ai dit, ben finalement, j'aimerais bien la refaire. Est-ce qu'il reste des places? J'ai compté le nombre d'inscrits là, puis il n'y a pas les 150 ou les 125, je sais plus là, que tu proposes. Il manque genre une dizaine de places. Puis là, il me dit, ben oui, justement, on va bientôt renvoyer un courriel pour ouvrir. Il y a des gens qui sont désistés, donc il y a des places qui s'ouvrent. Donc là, j'en ai profité. Je me suis inscrit à ce moment-là, c'était au mois de mai, je crois. Et là, cette fois-ci, j'étais vraiment mindé à aller au bout. En espérant que j'allais pas me blesser, je voulais pas non plus me blesser parce que j'avais toujours la BFC derrière. Mais je me suis dit, cette fois-ci, j'ai pas le SIA avant. Si je me blesse pas, je me rends au bout de moi-même. Puis là, ben c'est ça, même chose l'année d'avant. Là, tout se passe bien jusqu'à 32 tours. Mais je me sentais tellement bien que je m'étais même dit, waouh, je vais aller bien plus loin que l'année dernière. Là. Et puis, je crois qu'au 32e, j'ai fait un coup de chaleur. Mais tu sais, j'ai vite géré là. Je me suis mis de l'eau, je me suis refroidi dans le vent en revenant. Donc je pensais que j'avais réussi à gérer ça. Mais je pense que ça avait fait un certain mal quelque part là, parce que à partir de là, mon énergie a commencé à dropper de tour en tour. Puis c'était de plus en plus difficile. Donc
Ouais.
c'est 33 tours, hein, déjà, je commence à me sentir moins bien. 34, j'arrive au bout, j'étais hypothéqué. 35, je le finis, puis là, je dis à ma blonde, je ne sais pas comment je vais pouvoir encore en refaire un autre là. J'étais vraiment vidé là. Puis on était sur le départ pour le 36e, puis là je me rappelle, il y avait Eric qui me craquait, parce qu'il voulait que je sois dans l'équipe pour le championnat. Puis il me disait, allez, il faut que t'en fasses encore deux pour être sûr d'être dans l'équipe là. Puis je lui disais, Eric, écoute, Eric, j'en peux plus, tu sais, je vais prendre ça un tour à la fois, puis on verra. Puis là, on part sur le 36. Puis jusque-là, tu sais, j'avais j'alternais course, puis marche. Je courais pendant un certain moment, puis je marchais un petit peu, puis je recourais pour me reposer. Mais là, je savais que j'étais plus capable de faire un pace suffisant pour avoir le temps de marcher. Donc là, je me suis dit, OK, t'oublies de marcher, tu fais juste courir, mais c'est le mieux que tu peux. C'est vraiment un petit trot où je me traînais là. Et tu fais juste ça. Donc là, j'ai couru tout ça pendant l'aller. Puis tu sais, je vois Eric qui fait demi-tour, on se croise, puis il me dit, allez, t'es dans les temps, lâche pas et tout. J'arrive au bout, je regarde ma montre, 27 minutes. Je me dis, ah, c'est bon, ça marche. Tu sais, si je continue comme ça, je le rentre en 54, c'est pas pire. Donc je continue mon petit trot là, puis là, je continue à ralentir parce que j'étais de plus en plus fatigué. En plus, il y avait la côte au retour, là. Dans la côte, je me traîne. Puis finalement, tu sais, je commençais à sentir ma tête qui partait en arrière. Là, je courais, puis j'avais la tête qui partait. Puis la seule autre fois de ma vie où ça me fait ça, c'était un coup de chaleur au demi-marathon de Lévis. Donc là, c'était ça, là. Vraiment, j'étais encore dans mon coup de chaleur. Plus d'énergie. Puis là, je me suis dit, OK, il faut juste que tu termines cette boucle. Il faut que tu la valides. Peut-être que tu l'as pas faite pour rien, là. Puis j'arrive près du site d'arrivée, puis j'entends les trois coups de sifflet. Puis là, je savais que j'avais assez de
Le
temps pour
trois
finir.
minutes, ouais.
Puis là, j'arrive tout près du site. Je vois Yvan qui m'encourage, qui me dit, allez Cédric, t'as encore le temps de repartir. Puis tu sais, dans ma tête,
Ouais.
c'était non, non, man, pas question que je reparte, là, tu sais, j'ai rempli de jus. Là, j'entends les deux coups de sifflet. Puis là, il me restait 100 mètres, tu sais, donc je savais que je l'avais fait. Mais là, il fallait juste que je me rende à la ligne d'arrivée, puis j'avais vraiment plus rien. Je me rappelle, j'étais dans ma bulle, je vois la ligne d'arrivée, je la dépasse, puis là, mes jambes se dérobent sous moi. Là, je me suis écrasé au sol. J'ai pas perdu connaissance, mais je suis tombé. Là, j'avais plus de jus. Impossible de repartir. Puis là, c'était correct parce que j'avais vécu ce que je voulais. Je m'étais vraiment rendu au bout. Donc là, après, je m'étais dit, t'sais, j'en referai plus. J'ai eu ce que je veux. Terminé. Oublie les championnats. De toute façon, je ne serai pas qualifié. Je n'ai pas fait assez de tours, etc. Je n'avais même pas regardé. Il restait encore, je pense, deux courses de Silver Ticket au Canada. Donc ça dépendait de ces courses-là. Je n'ai même pas regardé les résultats de ces trucs-là. Je m'en foutais complètement. Puis c'est Eric qui m'a envoyé un message qui m'a dit, c'est bon, t'es dans l'équipe. Est-ce que tu viens? Et là, au début, c'était, ah oh, non, je ne veux pas refaire ça, là. Mais finalement, tu sais, après quelques heures ou un jour ou deux de réflexion, c'était, putain, quand même, c'est les championnats
C'est toute une chance d'être
mondiaux, je
sélectionné,
suis sur
c'est
l'équipe du
ça?
Canada, c'est
Ouais.
une expérience à vivre, tu peux pas manquer ça. Là. Donc j'ai fait, OK, c'est bon, j'y vais.
Mais juste avant de parler des championnats, là, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que quelques semaines auparavant, tu as fait le Bromont Ultra avec ta copine, à son rythme, qui était
Bah, une semaine avant, là, c'était le week-end d'avant.
c'était une semaine avant?
Ouais, ben en fait,
Ouh!
le truc, c'est que le Bromont Ultra, il était déjà à mon agenda avant
Ouais.
que je sache que j'aille au championnat. T'sais, donc, pour moi,
Ah,
c'était ma
ouais.
dernière course de la saison. J'avais pas prévu de la courir avec ma blonde. On s'est dit, on va la faire chacun de notre côté. Moi, je voulais la courir pour performer, là, essayer de le faire le plus vite, 80 que je pouvais. Puis là, finalement, bah, t'sais, j'ai vu que les championnats, c'était une semaine après. Et je me suis dit, OK, bah, t'sais, ça
Ah.
va être ma dernière sortie longue, puis je vais le faire avec ma blonde.
Ouais, pas de podium ce jour-là.
Non. Mais ça a été bien le fun
Super.
de courir avec ma blonde.
Ouais,
On
puis
a
en
été
fait,
bien
vous êtes
ensemble.
vraiment le fun à suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment un couple cute, là. Donc,
Merci.
mais je sais que tu me racontais que tu as eu quand même des douleurs un peu.
Ouais, ah ouais, je me suis fait peur parce que c'était vraiment bizarre ça, tu sais, la BFC, il y avait plus de dénivelé que le Bromont.
Ouais.
Et je l'avais couru le plus vite que je pouvais, et puis je m'étais fait aucun bobo. Puis là, je le cours un rythme qui est tranquille pour moi, tu sais.
Pas de ronces à Bromont, rien.
Pas de ronces, rien, tu sais. Puis on marchait tranquillement dans les montées et tout. Puis finalement, au bout de, je sais pas quand ça a commencé là, mais peut-être au bout de 40 ou 50 kilos, j'ai commencé à sentir mes tendons d'Achille qui tiraient là, les deux côtés. Et donc, je me suis dit, oula, tu sais, il faudrait pas. Je m'étais blessé au tendon d'Achille gauche au printemps.
OK.
Donc là, je voulais pas que ça revienne, là, puis que ça m'empêche de faire la backyard. Donc, tu sais, j'essayais de monitorer, voir que ça se rendait pas une blessure, puis ça avait l'air d'être juste, ça tirait juste. Et donc, j'ai continué, puis on s'est rendu au bout avec ma blonde. Puis là, le lendemain matin, je pose le pied par terre. Ouh, là, ça faisait mal dans le tendon gauche. Je pouvais, même je boitais, là, je pouvais plus mettre, tu sais, de faire le
La
mouvement naturel du
pression.
pied parce que ça
Ouais.
tirait trop dessus. Et là, je me suis dit, eh merde, tu t'es blessé, t'es vraiment trop con. Puis finalement, heureusement, le surlendemain, ça allait mieux, je pouvais marcher normalement. Puis 3 jours après, c'était passé, là.
OK.
Donc,
Super.
j'étais à la limite, là. C'était...
Ouais.
J'ai
Donc,
failli en faire trop.
pour les championnats canadiens, vous étiez quelques personnes du Québec. Je sais qu'il y avait Stéphanie Simpson, Éric Deshaies aussi.
Ouais, il y avait
C'est
aussi
ça?
Marco Poulain qui
Oui,
avait l'assist
exactement.
d'Eric cette année.
Ouais.
Ouais. Donc on était tous les quatre du Québec.
OK.
Et ben là, en fait, c'est la première expérience de backyard où j'ai vraiment trippé.
OK.
Donc là, je l'annonce officiellement que c'est pas ma dernière
OK.
backyard. Ouais. Ce qui m'a fait tripper ce coup-ci, là, c'est l'aspect d'équipe.
Puis ça se passait en Colombie-Britannique aussi.
Ouais,
C'était
aussi.
différent.
Différent, un autre parcours qui était d'ailleurs plus un parcours de trail. Donc, je me suis vraiment plus éclaté dans ce parcours que celui de Kakuna.
OK.
C'était au début, la première moitié, c'était plutôt un sentier assez large et plat, là. Donc, en fait, ce sentier-là, cette partie-là, c'était celle que j'aimais pas. Là, je la trouvais longue et chiante. Mais là, je courais avec Marco. On a couru tout le long ensemble.
OK.
Marco, c'est un coureur de route, là. Donc, lui, là-dessus, il y allait bien, là. Donc, tu sais, moi, je suivais son rythme. Puis après, le retour, c'était de la trail. Et là, Marco, il n'avait pas l'habitude. D'ailleurs, le pauvre, il s'est pris les pieds dans des roches. Il est tombé, mais solide, 4-5 fois, là. Puis, tu
Oh.
sais, à chaque fois, je me retournais, j'entendais boum derrière moi. Je m'arrêtais, je me retournais. Ça va, Marco? J'avais toujours peur qu'il se casse quelque chose. Puis, il se relevait. Et, ouais, ça va. Puis, il continuait. Il est vraiment solide, le gars.
Ouais.
Et donc, le retour, là, c'est là où je m'éclatais, là. C'était le moment où, OK, maintenant, c'est le fun. Puis, j'avais du fun. Puis, donc c'est ça, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que on était vraiment une équipe, on soutenait tous pour que chacun dure le plus longtemps possible. Puis, bon, les gens avaient différents rythmes. Il y en avait qui rentraient la boucle en 45 minutes, ils étaient en avant tout le monde. Moi, je la rentrais en autour de 50 minutes. Puis, il y en avait qui avaient même décidé d'y aller très lentement, puis de la rentrer en 55 minutes. Donc, on avait chacun des rythmes différents. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire le. Je suis jamais allé courir avec ceux de tête parce que je voulais pas me fatiguer, mais j'ai décidé de faire 2 ou 3 fois la boucle avec ceux de l'arrière pour parler un petit peu avec eux, avec d'autres gens. Hein. Puis c'était vraiment sympa là, tous des coureurs avec des histoires super intéressantes, puis du monde vraiment craqué, motivé. T'sais. À la fin là, quand la dernière boucle où j'ai arrêté, il y en a un, il en pouvait plus, on l'entendait, il gémissait, il était là. Puis il continuait pareil, il a fini cette boucle-là. Il y en a un autre, il avait envie de vomir en courant, on entendait. Et puis il continuait aussi. Vraiment, tout le monde s'est rendu au bout de ce qu'il pouvait.
OK. Puis, est-ce que ce genre d'expérience-là te donnerait le goût de faire la backyard à Laz?
Bah, ça, je pense que c'est un peu trop au niveau pour moi, là.
OK.
T'sais, là, j'ai. Bon, c'est sûr que ma limite, elle avance à chaque fois, là. C'est ma première backyard, c'est 34, la deuxième,
Ouais.
36. Là, je suis allé jusqu'à 40. Mais tu sais,
Ouais.
ça reste un peu. T'sais, ça va pas. Je vais pas atteindre le 60, là. Ou alors, il en faudrait que j'en fasse comme un
Ou le
malade.
sang comme les Belges?
Ou le sang comme les Belges. Ça, c'est même incompréhensible, là. Je sais pas comment ils font ça. Donc, tu sais, je pense pas que j'ai le niveau de me rendre à la Big Dog. Mais par
Okay.
contre, j'ai vraiment, tu sais, aimé l'expérience. En plus. J'avais promis à ma blonde de ne pas me rendre au bout de l'épuisement comme cet été à Kakuna, parce qu'elle a eu peur, là, elle a eu peur pour moi. Donc
Okay.
là, à la 40, je suis rentré, il me restait encore pourtant, je suis rentré avant les coups de sifflet de 3 minutes, là, il me restait 3 minutes 30, j'aurais pu repartir. Mais j'avais vraiment plus d'énergie. Puis je savais que si je refaisais une autre boucle, ça allait sûrement être comme la dernière que j'avais fait cet été. Et je voulais pas me rendre là.
Ouais,
Donc là,
hypothéqué un peu, là.
je lui ai dit, bah, je t'ai promis ça, je repars pas. Tu sais, 40, c'était mon objectif premier. Je suis content, je m'arrête là.
OK, super.
Puis du coup, j'ai bien vécu l'événement. Puis le lendemain, j'avais mal nulle part, là, à part les tendons qui tirent un tout petit peu, mais c'est tout, là.
T'as fini ça en beauté sur une note positive aussi, là.
Ouais, c'est ça.
OK, super. Donc, écoute, prochaine, on va te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la Barclay. Puis, si un jour tu fais la Barclay, c'est sûr que je te réinvite. Écoute, il y a tellement de choses à parler avec toi, tellement d'histoires. Fait que je vais souhaiter vraiment bonne chance pour faire la Barclay cette année. Puis, sinon, une bonne préparation pour la prochaine BFC.
Ouais, bah merci. Ouais,
Puis,
je
écoute,
croise les doigts.
c'était tout un honneur de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup.
Bah merci à toi, là. Ça me fait plaisir de raconter mes aventures.
Super. Ben écoute, bonne saison off, puis bonne récup, puis bonne préparation pour les prochains projets.
Ouais. C'est ça, les prochains, ce sera soit la Barclay, soit la Chartreuse. Là, j'aimerais inscrire à la Chartreuse Terminorum aussi.
Ah ouais,
Et
OK.
puis, peut-être retourner à Kakuna, là, on verra.
OK. Super. Puis est-ce que tu as des ultra trails de planifier aussi pour l'an prochain ou ça va dépendre de plein de choses?
C'est ça, ouais, ça va surtout dépendre là, de la Barclay, je dirais. J'aimerais en faire un pour me requalifier pour la Hard Rock. Ça, c'est un
Ouais.
des grands mythiques que j'aimerais faire un jour, là.
OK.
L'année où j'avais fait la Diagonale des Fous, ça me qualifiait, donc je m'étais inscrit, mais je n'avais pas été pris. Puis là, depuis, j'en ai parfait d'autres de qualificatifs, donc je ne peux pas m'inscrire.
C'est ça, puis je pense qu'il y en a. Ben, en tout cas, c'est quand
Il n'y en a
même
pas
possible.
beaucoup.
C'est ça, j'allais
Ouais.
dire. Ouais, c'est une des courses qui est difficile à faire pour un 100 miles, pas mal.
Ouais. Donc là, il y a peut-être la Cruel Jewel, mais c'est en mai, donc
Ouais,
j'ai
puis
peur que ce
qui.
soit trop. T'sais, si je suis pris la Barclay, ça risque d'être trop proche. Si
Ouais.
je ne suis pas pris, ben, je vais peut-être la faire. Je vais
OK.
voir.
Ouais, qui est un 100 miles très difficile.
Ouais.
Super, ben écoute, bonne récup, bonne fin de saison, puis on se reparle pour la Barclay, puis tout ça, puis on te suit sur les réseaux sociaux.
Ok,
Merci beaucoup.
merci, bye bye.